Embarquement immédiat pour G comme Odéon. L'émission des Good Gones qui cause culture sur lyondemain.fr.
Cette semaine, les Good Gones vous proposent une promenade en attendant l'été et pourquoi pas un pique-nique pour faire honneur aux belles journées du mois de juin. Avec de la bonne musique entre les deux oreilles, évidemment un bon bouquin et des amis bien inspirés de pensées positives. Oui, c'est possible de rêver grand. Au programme cette semaine, Stan Matisse et son dernier album au titre Mathématique 5775, sorti en mars. Guillaume sera accompagné de Mathias Bouffet avec un concert anniversaire au Transborneur le 9 juin. Et Gaël nous parlera du plasticien Éric Poitevin, invité au Musée des Beaux-Arts et au MAC, Musée d'Art Contemporain, dans le cadre de l'exposition Histoire de famille. Et bien entendu, nous terminerons par nos Gédéons, nos coups de cœur du moment. Et tout de suite, Guillaume, tu n'es pas venu seul, tu es venu accompagné de Mathias Bouffet.
Tout à fait, je voulais inviter Mathias d'À tout bout de champ parce qu'il est le spécialiste notoire français de Jean-Jacques Goldman.
Tout à fait.
Et donc je voulais évidemment lui poser quelques questions à ce sujet. Pas du tout. À tout bout de champ, en fait, c'est 20 ans. Cela ne fait pas 20 ans que tu es à tout bout de champ.
Non.
Mais effectivement, cette soirée va être un petit peu particulière parce que c'est un petit peu la fin et le début de quelque chose. Et j'aimerais que tu nous parles de cette soirée. En plus, tous les artistes qui sont invités lors de cette soirée sont presque tous passés à ce micro puisqu'il y a Tom Bird, Oscar Les Vacances, qui n'est pas passé à ce micro, pardon. Mais
c'est Pandore, une invitation.
Ouais, mais j'aimerais bien parce que j'adore Oscar et en plus j'aime beaucoup ce qu'il fait et surtout j'aime beaucoup le chemin qu'il prend et puis la notoriété qui est en train d'arriver. Mais Limas est venu ici, Zim, Slamouraï, donc beaucoup de gens qu'on accueille ici. Donc j'aimerais que tu nous parles de cette soirée et pourquoi fêter ces 20 ans.
Oui, alors il faut savoir que notre saison entière à tout bout de champ a été la saison des 20 ans. La salle a été lancée en septembre 2001. Et donc là, on va clôturer cette saison des 20 ans et on voulait une date assez forte dans un lieu un peu mythique, lyonnais et villeurbanais, et qui représente aussi beaucoup les musiques actuelles, forcément, dans la région. Et donc on voulait cette soirée-là des 20 ans d'À tout bout de champ au Transborder le 9 juin, et donc entouré de tous les, enfin pas de tous d'ailleurs, mais d'une partie des artistes qu'on a accompagné depuis 2015, depuis notre reprise du lieu avec Lucas en 2015, parce qu'on n'est pas qu'un lieu de diffusion d'artistes, on est aussi un lieu où on peut accompagner des artistes un peu vers la professionnalisation, pardon, ou vers un peu, voilà. Donc on avait cette envie-là de créer un petit moment et un grand moment autour de tout ça. On a eu cette idée de faire cette soirée, alors c'est un concert vraiment avec les chansons de ces artistes, de ces 9 artistes qui seront là. C'est leurs chansons, mais réarrangées, etc. Ils s'échangent les chansons, ils chantent ensemble. Ils sont accompagnés par 2 super musiciens, Rémi Capriélan et Pierre Vadon. On ne voulait pas que ça soit juste chaque artiste qui, avec son groupe habituel, chante 2 chansons et s'en aille. Donc là, ils vont partager vraiment une soirée tous ensemble. Ce beau plateau sur cette belle salle, grande salle du Transborder qui est très mythique et surtout qui est une salle dans notre accompagnement qui est importante aussi. Enfin, c'est chouette de pouvoir offrir cette salle-là à ces artistes-là qui sont encore pour la plupart en développement et qui n'ont pas forcément toujours encore accès à ces salles-là. Donc,
vous les avez tous suivis.
Ouais.
Y a vraiment des esthétiques très différentes.
Ouais, bien sûr.
Vers quel artiste tu irais?
Bah, c'est trop compliqué de répondre, surtout que d'autant plus que si on les a accompagnés aussi. Alors, il faut savoir que la plupart des artistes qui sont accompagnés là, qui sont sur cette scène-là, proviennent aussi de notre tremplin découverte qu'on fait tous les ans. Et généralement, c'est les prix du jury à la finale du tremplin qui sont artistes accompagnés. Mais pas que, il y a des gens comme Slamouraï, par exemple, qui viennent pas du tout du tremplin, mais qu'on connaissait et qu'on a voulu accompagner. Donc voilà, c'est aussi, ils viennent forcément de notre giron et de nos envies perso. Donc,
Une petite question pour toi, Mathias. Peut-être que tu le sais ou pas. Est-ce que à tout bout de champ, à craindre notamment des baisses budgétaires dont tout le monde parle finalement dans la culture ici à Lyon?
Bah, pour l'instant non. Donc pour l'instant je suis pas dans les petits papiers des décisions qui vont venir plus tard, mais pour l'instant on n'est pas concerné par ça. On est encore très soutenu par que ce soit par la ville, la région ou la DRAC, notamment, en plus des aides du CNM et d'autres structures comme ça.
Alors tout à l'heure, tu faisais allusion au tremplin que vous organisez, donc ça tombe plutôt bien puisque la finale du tremplin aura lieu le 19 juin.
Tout à fait.
Au théâtre Comédie Odéon.
À la Comédie Odéon.
Depuis maintenant.
Ouais, ça doit faire 4 ans.
Oui,
ça,
c'est ça.
La quatrième.
Est-ce que tu peux nous parler de cet événement avec des artistes
Des artistes qui se sont inscrits tout au long de l'année. On a fait 3 sessions de qualification. C'est des mots un peu moches, qualification finale, etc. pour les tremplins, mais c'est le cas. Il y a eu 3 sessions en gros de qualification et à chacune de ces 3 sessions, il y a eu un prix du public et un prix du jury qui sont qualifiés pour la finale qui aura lieu donc le 19 juin à la Comédie Odéon. Pareil que pour notre programmation, notre salle, c'est les textes en français, la ligne directrice, mais là, chaque artiste est très différent sur la finale. On est content parce que ça a ouvert à... Le tremplin était très lyonnais à la base, même si c'était ouvert à toute la région. Et là, on a de plus en plus, sur cette finale, on a 2 projets grenoblois notamment. Et c'est bien parce qu'on voit de plus en plus de gens qui s'inscrivent, qui viennent de Grenoble, de Clermont-Ferrand, de Saint-Etienne, etc. Donc nous, ça nous a fait vraiment plaisir là, sur cette saison de constater ça.
Peut-être pour terminer, donc il y a quand même d'autres dates qui sont importantes, parce que finalement, il n'y a pas des dates moins importantes que d'autres. Et il y a Hélène Piris qui vient le jeudi 16 juin,
oui,
je crois,
tout à fait.
Qui vient de sortir un album, enfin plutôt en début d'année, mais voilà, et qui vient le 16 juin. Et puis il y a Buridan, qui est quand même un peu une artiste emblématique de la salle, parce qu'elle a quand même répété beaucoup dans la salle, elle a un peu éclaté dans cette salle-là, et puis ensuite...
Et je parlais tout à l'heure de fin, d'ailleurs, un peu comme ça, mais pour la soirée des 20 ans au Transborder, mais il faut savoir que cette soirée-là marque aussi, cette soirée au Transborder, le dernier gros événement hors les murs qu'on a, avant que Lucas et moi nous passions la main à tout bout de champ, parce qu'il y aura une passation cet été, enfin qui est déjà en cours mais qui va être voilà à partir de la fin du mois de juin avec Lucas. On a repris en 2015 le lieu et on part en 2022, en juin 2022, et donc Buridan ça sera aussi la toute dernière date de la saison et notre dernière date avec Lucas. Et c'était important pour nous de terminer avec Buridan parce que c'est elle qui a ouvert en 2015 quand on a repris, c'est elle qui nous avait fait l'amitié de venir ouvrir 2 soirs, et c'est un peu on l'a proclamée marraine de notre aventure à tout bout de champ. Donc voilà, on finit avec notre marraine.
Très bien, bah, écoute, on te remercie. Et puis donc, on aura rendez-vous le 9 juin au Transborder.
Tout à fait, à 20h30, ouverture des portes à 19h30.
Tout à fait, et ça coûte très peu cher, c'est 10
euros. Oui, c'est 10 euros, voilà. C'est vraiment pour qu'il y ait le maximum de gens qui viennent faire la fête.
Il y a une dizaine d'artistes, plus certainement d'autres
invités. Pour ceux qui ne connaissent pas les artistes, venez payer ces 10 petits euros et vous allez repartir avec 9 découvertes super. Donc,
oui, et puis en plus, dans des esthétiques très différentes.
Ouais,
parce que Oscar Les Vacances, qui est une sorte d'ovni... Ouais. Pop un peu délirant, Slamouraï qui fait du slam mais avec des musiciens, c'est vraiment
il y a vraiment de tout ce qui représente la chanson, on va dire, actuellement.
Ah, la chanson,
c'est un terme, voilà,
chanter en français, voilà.
Merci beaucoup Guillaume. Une dernière petite question pour vous Mathias, vous terminez cette aventure d'À tout bout de champ, qu'allez-vous faire après?
C'est une bonne question.
C'est secret ?
Non, c'est pas secret. Non, si je savais, je vous dirais. Mais pour l'instant, je recherche. On va voir.
D'accord.
J'espère rester dans ce milieu-là et pouvoir continuer à travailler.
Une future direction
avec ces artistes,
de salle. Vous
pourquoi
postulez
pas,
quelque
on va
part.
Voir, on va voir. On va voir ce qui se passe.
Bon, vous nous tiendrez au courant, j'espère, Mathias.
Ouais, avec plaisir.
Merci beaucoup, Mathias, d'être venu dans G comme Odéon. Gaëlle, cette semaine, tu nous parles d'une exposition, comme souvent, et des artistes plasticiens singuliers. Nous allons être en bonne compagnie avec toi et Éric Poitevin, présent dans 2 expositions en ce moment, au MAC, comme je le disais, et au Musée des Beaux-Arts de Lyon. Mais alors, qu'est-ce que Éric Poitevin a de particulier pour avoir 2 expositions en même temps à Lyon ?
Alors, le photographe Éric Poitevin est actuellement à l'honneur donc, au sein de ces 2 expositions, l'une au Musée des Beaux-Arts et l'autre au Musée d'Art Contemporain. Au Musée des Beaux-Arts, l'artiste inaugure la première résidence de l'institution avec Éric Poitevin invité. Invité à faire dialoguer ses œuvres avec celles de son choix issues du fonds permanent du musée. L'écho était éloquent soit avec des créations déjà existantes du photographe, soit c'est l'œuvre du musée qui inaugurait la genèse d'images nouvelles. Le préambule de ces conversations artistiques fait résonner des drapés. La première salle propose d'un côté les drapés sculptés en albâtre d'une femme pleurant qui date de la deuxième moitié du XVe siècle, et de l'autre, les drapés mis en scène des voiles de visée, incroyable, hein, de la propre chambre photographique d'Éric Poitevin. L'artiste travaille également sur les correspondances formelles entre les crânes du registre des vanités et des ballons de sport. En effet, ne jongle-t-on pas avec la mort comme avec un ballon ? Dans l'atelier d'Éric Poitevin figurent de nombreux crânes qu'il aime sortir régulièrement pour passer le temps ou pour les mettre en scène, sans scénario préalable, tout comme la mort. Un dialogue, c'est avant tout deux interlocuteurs qu'il faut minutieusement saisir pour mesurer l'envergure de l'échange. Aiguiser notre œil, élargir et renouveler notre regard devant chaque œuvre en ricochet d'une autre, c'est toute l'invitation proposée par Éric Poitevin. Passionné par les débuts de la photo et par l'ampleur des possibilités qu'elle offre dès la fin du XIXe siècle, l'artiste a travaillé sur la notion de reproductibilité de l'œuvre. Il offre un échange singulier, c'est d'ailleurs mon coup de cœur, entre le Saint François d'Assise momifié debout, tableau de 1640 de Francisco de Zurbarán, et plusieurs panneaux de sa création à l'échelle 1-1 du Saint François, c'est quand même 2 mètres de haut, hein, qu'il expose en vis-à-vis. Chaque panneau supporte une photographie argentique qui décline toutes les valeurs intermédiaires en noir et blanc de l'œuvre de Zurbarán. Séquence méditative garantie. Les conversations se poursuivent autour de nombreuses iconographies, exemple où, en contrepoint du portrait d'une noble dame saxonne de 1534 de Lucas Cranach l'Ancien, Éric Poitevin expose une série de nus féminins, photographiés en studio, sans fond, et portés par un réalisme distancié pour se défaire de tout questionnement esthétique. Distance qu'il abolit en immortalisant dans un autre travail une partie bien particulière des tableaux, leur tranche, c'est-à-dire la partie latérale des toiles sur châssis qui s'appelle un champ. Un champ, C-H-A-N-T. Dans cette série, motivée par une démarche minimaliste, le photographe rend honneur au support même du Musée des Beaux-Arts. La déambulation continue à travers des dialogues entre paysages, des roseaux, des portraits, des animaux et des natures mortes insolites. Seule la présence de post-it sous les fruits de natures mortes, cette fois photographiées avec un smartphone, vous indiquera qu'elles ont été immortalisées en contre-plongée. Les œuvres d'Éric Poitevin ne s'arrêtent pas au Musée des Beaux-Arts. Continuez le voyage jusqu'au Musée d'art contemporain. La série « Anciens combattants » de l'artiste figure dans l'exposition « Une histoire de famille, collection Roblin ». Collection du couple Anne-Marie et Marc Roblin qui fera l'objet d'une prochaine chronique. Éric Poitevin, originaire de Meurthe-et-Moselle, souhaitait montrer un ambitieux projet sur la Première Guerre mondiale. Grâce à une bourse du secrétaire d'État aux anciens combattants obtenue en 1984, il mène à bien sa démarche en parcourant toute la France à la recherche des anciens combattants. Le saisissant résultat est exposé au MAC, Musée d'Art Contemporain, 100 portraits photographiques en noir et blanc de vétérans de la Grande Guerre. C'est animé par, je le cite, « la croyance en une photographie preuve déficiente, mais preuve tout de même que ça a été », que cette série est née. Au Musée d'art contemporain toujours, Éric Poitevin présente de grands tirages de paysages, dont l'un tout à fait troublant, issu de sa série « Sous-bois, forêt de Verdun ». Intitulé « Pollock », pour ses correspondances formelles avec les all-overs du fameux représentant de l'action painting, la photo vous plonge dans un entrelacement suffocant de branches qui déséquilibre spatialement. Les deux expositions sont à voir jusqu'au 28 août pour le Musée des Beaux-Arts et jusqu'au 10 juillet pour le MAC. Plus d'informations sur mba-lyon.fr et mac-lyon.com.
Merci beaucoup Gaëlle. On poursuit notre émission, on reçoit Stan Matisse aujourd'hui qui nous fait l'amitié de venir évoquer son dernier album, tout juste sorti au titre codé et chiffré 50-75. Je l'évoquais dans mon lancement tout à l'heure. Bonjour Stan.
Bonjour.
Alors, on va tout de suite lever le voile sur le titre pour nos auditeurs. Que signifie ces deux nombres même, hein, 57-75. Alors, je subodore des dates. Suis-je sur la bonne piste, Stan?
Pas du tout.
Pas du tout.
Contrairement aux apparences, en effet, les chiffres avancés sont un peu le prétexte à l'idée de mettre en avant ce qu'on appelle un palindrome, c'est-à-dire quelque chose qui se lit dans les deux sens.
C'est comme kayak.
Mon activité musicale, j'aime bien tout ce qui est un petit peu en miroir, en faux semblant, en double face. Et sur un album précédent, il y avait aussi un reflet du visage un peu détourné au-delà d'un miroir. Et là, voilà, l'idée d'un palindrome, ça me paraissait intéressant pour parler de finalement d'un album qui évoque des points de vue peut-être un petit peu plus tranchés que ce que j'ai pu faire avant. Je parle par rapport à ma propre expérience d'écriture. Et en sachant que, évidemment, la question de certains points de vue, elle est aussi réversible en fonction des expériences qu'on traverse.
Bien
cet
sûr.
Album, il témoigne d'un vécu sur ces 2-3 dernières années. Peut-être que le prochain parlera de choses inverses.
Absolument. Voilà. Vous nous aviez habitués à plus de mots que de chiffres dans les précédents. Centre-ville, le premier, hein, pour le premier album. Ombre et visage, le suivant. Et puis enfin, plexus solaire, c'est comme ça qu'on s'était rencontrés, oui. Stan, en 2019. Peut-on déceler justement un brin de nostalgie dans les références convoquées dans ce dernier album?
Alors oui, il y a de la nostalgie en effet. Le constat de départ, c'est quand même un peu la photographie des 2-3 dernières années, alors vécues à titre personnel, mais aussi en tant que, j'allais dire, en tant que citoyen. Voilà,
bien sûr,
les expériences qu'on a pu traverser.
C'était des années difficiles, quoi qu'il arrive. Qu'on soit artiste ou qu'on ne le soit pas, d'ailleurs, hein, pour être tout à fait clair.
En effet, oui. Ouais.
Les confinements, l'épidémie, etc. Hein,
c'est aussi peut-être une des vocations, c'est pas la seule et c'est pas forcément la meilleure, mais c'est une des vocations aussi de notre activité d'artiste, d'auteur peut-être un peu plus,
oui.
Voilà, dans ce sens-là, c'est d'être capable de témoigner aussi un peu comme un photographe, un peu de sismologue aussi peut-être, des événements vécus, je le disais, voilà, sur le plan collectif puis sur le plan personnel aussi, moi ça témoigne aussi de ça, donc le point de départ c'est d'abord ça et forcément ça retranscrit pas mal de colère, d'éléments un peu négatifs, de déception,
oui,
d'inquiétude.
Mais pas seulement.
Et justement, ça m'a amené aussi à comprendre qu'il y avait évidemment parfois...
Parfois un peu de beauté dans
tout
mais
ça. Ça, c'est une évidence, mais qu'il y avait aussi parfois un légitime retour aux sources et à des périodes d'enfance, d'adolescence, que je veux pas non plus caractériser comme étant idéal, c'est pas vrai, mais qui portait en elle aussi des éléments positifs auxquels peut-être se raccrocher aujourd'hui.
Voilà. Alors, on va parler effectivement d'un titre qui m'a beaucoup plu, personnellement, qui s'appelle Kurt 67-94. C'est pour ça que j'avais pensé que le 57-75 était une date aussi.
Je comprends.
67-94, 67, c'est l'année de naissance de Kurt Cobain, évidemment, et 94, l'année de sa mort. Quelle est la place de ce mouvement grunge dans votre propre parcours créatif?
C'est le croisement historique. C'est-à-dire que si j'étais né 10 ans avant, ça aurait été les Cure, peut-être. Si j'étais né 10 ans plus tard, ça aurait été, je sais pas, les White Stripes ou autre chose.
Ouais.
Ou peut-être un autre style de musique, d'ailleurs, hein, je sais pas. C'est trouvé que j'étais adolescent au moment de l'émergence de ce courant musical et c'est ça qui m'a frappé de plein fouet. J'étais déjà un petit peu atteint avant parce qu'on écoutait beaucoup de musique à la maison et j'étais déjà très intéressé par la question musicale. Mais effectivement, j'ai garde un souvenir très attendri et puis assez symptomatique
de Nirvana,
de ce fameux jour où on m'a fait écouter un peu par hasard l'album Nevermind sans trop savoir ce que c'était. Je parlais de sismologie tout à l'heure, c'est un peu un pic émotionnel. C'est pas le seul disque que j'écoute, c'est pas mon disque préféré, mais c'est à ce moment-là qu'il s'est passé un truc un peu plus fort que les autres. Donc c'est évidemment un texte qui parle un peu de mon adolescence et de mes souvenirs. Donc voilà, l'idée c'était de rendre hommage aussi à ce moment important.
Alors on en écoute un extrait et on se retrouve juste après.
J'habitais dans un quartier entre plâtre et ciment. Je m'ennuyais tellement.
cherchais à m'évader en marchant dans les rues, sans raison et sans but. À cette époque qu'on écoutait Smells Like Teen Spirit, on voulait vivre vite et sans mémoire, consumer le présent de désir en espoir pour se sentir vivant.
De votre album Stan Matisse qui s'appelle 5775 et on vient d'écouter Kurt 6794, date de naissance et de mort de Kurt Cobain. Le grunge, c'est né à Seattle, hein, on peut le dire, avec Nirvana, mais pas seulement. Hein, il y avait d'autres groupes qui étaient aussi importants pour cette époque. Mais c'est aussi toute une façon peut-être de voir la vie, peut-être entre le punk finalement et des mouvements peut-être un peu de ce type. Comment vous situez aujourd'hui ? Alors évidemment, vous ne pouvez pas dire « je suis punk », ça, c'est pas possible.
Il y a certaines personnes pour témoigner du contraire autour de la table. Mais en fait, l'évocation pour moi, elle est peut-être plus sonore que philosophique.
D'accord.
Bien évidemment, quand on est passionné de musique, on s'intéresse aussi aux courants musicaux et à leur portée sociale. Et il est clair que voilà, le courant grunge est aussi une résultante de ce que vous disiez sur le punk et puis d'autres courants aussi. Moi, je suis très fan d'un groupe qui s'appelle Sonic Youth, qui a justement défriché un peu le terrain de toute cette génération-là. Mais ça ne se réduit pas à ce courant exclusivement. C'est-à-dire que moi, vraiment, ce qui me marque à titre personnel, c'est l'impact que pouvait avoir cette musique-là dans mon évolution, parce que c'était aussi une époque où cette musique qui m'a un peu façonné, alors en tant que personne, en tant qu'auditeur, et puis donc en tant que musicien in fine, c'était une musique qu'on entendait partout, tout le temps, tous les jours. Et c'est quelque chose qui me manque un peu, parce que même si j'ai bien sûr la capacité de pouvoir continuer à écouter ces vieux disques-là, on ne baigne plus dans le même bain culturel. Alors ça m'amène à deux émotions. L'idée de dire que c'était un peu mieux quand je pouvais écouter toute la journée la musique que je préfère, et me dire aussi effectivement que c'est aussi très contextualisé et que c'était aussi des sensations propres à cette époque-là, forcément.
Est-ce que dans votre son de guitare, vous essayez de reproduire ce côté, je me suis renseignée, très sale, très boueux, en fait, du grunge que pouvait avoir Nirvana ou aussi d'autres groupes comme Pearl Jam, par exemple.
Ouais, tout à fait. Alors, il y a deux choses. D'une part, le projet initial de cet album était de l'enregistrer très rapidement dans des conditions du live, un petit peu pour se rapprocher de cette intention. Alors pour de multiples raisons, ça s'est pas enregistré comme ça. Ça a pris un an au gré de différentes séances.
C'est vrai,
séances.
Vous avez enregistré en fait entre avril 2021 et mars 2022.
Voilà.
Hein, ça vient
mais
de se finir.
Pas de manière régulière parce bien que sûr. Voilà les circonstances aussi qu'on a vécues nous ont amené parfois à prendre des pauses forcées. Et puis bon voilà, ça s'est fait comme ça. Donc de fait, le projet a été un petit peu réorienté vers quelque chose de moins direct que je garde quand même un peu en intention. Et puis, alors, il y a une autre raison qui fait que c'est pas, on ne peut pas considérer que ça s'inspire directement des sources que vous évoquez. C'est parce que j'écris et je chante en français et j'ai du mal à titre personnel à trouver l'angle qui me permettrait d'avoir une stylistique sonore aussi marquée tout en défendant des textes en français.
Ouais,
ça,
je
c'est
comprends.
Un vaste débat. Je ne sais pas si j'ai raison, mais peut-être pas. En tout cas, je pense ne pas en être capable. Donc, j'ai préféré rester dans quelque chose où je gardais de la maîtrise afin d'être le plus évocateur possible. Plutôt que de...
Vous avez mixé cet album avec Dominique Blanc-Francard, qui est quand même une sommité, une signature. Qu'est-ce que ça a apporté à votre album?
Ça a apporté déjà quelque chose d'essentiel sur le plan humain, parce que je le disais à l'instant, avant d'être musicien, je suis un auditeur en tant que personne. Et on peut être un auditeur et passionné de musique sans forcément être musicien, mais j'ai l'impression que c'est pas réversible, quoi. C'est-à-dire que c'est difficile d'être un musicien sans être passionné de musique. Ou alors, il se passe quelque chose de pas clair, quoi. Donc, à partir de ce moment-là, le fait de faire de la musique me permet aussi de vivre des rêves d'ado ou d'adulte, d'ailleurs, qui consistent à rencontrer des gens qui m'ont fait rêver en écoutant des disques.
Ouais, c'est ça.
Alors, évidemment, on peut en rencontrer certains, pas tous.
C'est sûr.
Et entre autres tentatives,
mais
effectivement.
Mais celui-ci était accessible.
Voilà, entre autres tentatives, le fait de rencontrer Dominique Blanc-Francard est une grande chance dans ma vie d'artiste parce que j'ai écouté des dizaines de disques et puis son expérience aussi allant du Château d'Hérouville dans les années 70 à ce qu'il fait maintenant au studio La Bohématique est quand même truffé d'anecdotes et de savoir-faire qui sont vraiment passionnants et stimulants. Voilà. Donc il a accepté le principe d'enregistrer et de mixer l'album. Et c'est une grande chance aussi pour moi parce que on arrive à une époque où ce genre de grands personnages, de grands studios acceptent de s'ouvrir au monde des artistes indépendants et des structures un peu autoproduites, chose qui leur était impossible d'imaginer il y a 10 ans, 15 ans ou 30 ans. Donc j'ai beaucoup de chance aussi que ça puisse se faire dans ces conditions-là.
Donc
parce
finalement
que
pas que de la nostalgie d'une époque passée, mais au contraire, vous voyez qu'aujourd'hui on peut faire finalement des choses
et d'ailleurs,
qu'on ne faisait pas avant.
Et ça effectivement, ça donne un regain d'enthousiasme extraordinaire parce que même des gens comme ça, qui sont des passionnés, sont prêts maintenant, à travailler dans d'autres conditions, tellement ils ont envie de travailler et de faire de la musique.
Ouais,
donc l'échange s'est avéré extrêmement enrichissant, de par son savoir-faire bien sûr, de par son caractère aussi. C'était vraiment génial de le côtoyer. Et puis parce que l'album a pu se faire aussi. C'était pas juste un tour de musée. Hein. On a vraiment travaillé sur le disque. Quoi.
Ouais,
chose que j'aurais pas imaginé au départ en le sollicitant. Et c'est une grande chance. Ouais.
Stan Matisse, on va terminer cet entretien en évoquant un titre que je mettrai en vidéo puisque vous avez fait un clip. Excuse my French. J'ai beaucoup aimé d'abord l'esthétique du clip. On n'en dira rien, il faut laisser nos auditeurs regarder cette belle réalisation en noir et blanc. Et puis, par contre, parler un petit peu du contenu, un petit peu de cette chanson, Excuse My French. Finalement, c'est un petit mélange entre le français et l'anglais, ce qu'on évoquait tout à l'heure, précédemment.
Ouais, alors c'est un paradoxe, parce qu'au départ de cette intention, je voulais écrire quelque chose justement sur la revendication du texte en français. Mais le Excuse My French, c'est aussi une expression qu'emploient les Anglais, c'est surtout ça, pour évoquer les situations où ils disent un gros mot ou quelque chose qui va gêner l'assistance.
D'accord.
Donc, il y a un rapport entre le French du français et la franchise.
D'accord.
En fait. Donc c'est ça l'idée. Donc au début, mon intention était de parler un peu de la beauté de pouvoir exprimer les choses qu'on ressent grâce à un langage qu'on maîtrise. Je trouve que dans notre corporation d'artistes et surtout d'artistes indépendants, très souvent on rencontre des artistes hyper intéressants mais qui prennent le choix de la langue anglaise parce que c'est facile ou que c'est plus à la mode et du coup on perd aussi cette qualité potentielle qu'on peut avoir en donnant un point de vue ou en étant plus évocateur dans le texte. Ça me dérange beaucoup, moi, en tant qu'auteur. Donc, je voulais parler de ça. Puis, je parlais aussi tout à l'heure du fait que les chansons sont un peu la photographie de ce qu'on a pu traverser dans les mois ou années précédents entre deux disques. j'avais pas mal de voilà de constats
à faire
et ouais à faire aussi et de leçons à tirer, de réflexions à produire. Donc finalement, c'est devenu une chanson sur la franchise.
Ouais.
Voilà, des choses à évoquer, mais ce n'est pas simplement le fait de dire des choses. C'est aussi des choses que je me dis à moi-même. La franchise, elle est d'abord valable pour moi. Et elle est valable aussi pour tous ceux qui écoutent. Donc c'est voilà, le Excuse My French est un titre en anglais. Donc c'est le paradoxe, vous voyez, de cette chanson qui revendique évidemment la beauté de la franchise et du français par ricochet.
Ouais. Bon, en tout cas, elle est intéressante cette chanson. On terminera là-dessus. Merci beaucoup Stan Matisse.
Merci
d'être venu nous rencontrer pour ce G comme Odéon. On poursuit. On va même aller tranquillement vers la fin de notre émission avec nos G des on, les immanquables du moment. C'est Guillaume qui commence. On le montre toutes les deux du doigt. C'est toi qui commences, Guillaume.
D'accord. Bah moi, je voulais parler d'un festival qui a été initié par la ville de Villeurbanne, capitale française de la culture, le festival Réel, le Réel Festival. Le nom a été donné par des jeunes, puisque en fait l'idée c'est vraiment d'attirer en fait un maximum de jeunes de 12 à 25 ans pour l'organisation de ce festival. Donc ça va être quand même quelque chose, un événement assez important à Villeurbanne, en espérant que le temps sera clément, parce que donc du côté du parc de la Fessine, on attend quand même environ 20 000 personnes.
Ah,
en
oui.
tout cas c'est fait pour 20 000 personnes et sans doute davantage, parce qu'évidemment la programmation est plutôt dédiée à un public plus jeune. Mais enfin, mm-hmm. après les vieux comme nous peuvent
on a
tout
le droit
à fait
d'y
s'y
aller
rendre.
Quand même. Bon,
il n'y a pas de souci. Alors évidemment quelques quand même têtes d'affiche, puisqu'on va retrouver le vendredi 3 juin à 20h30 Eddie de Préto, qui quand même a eu même un succès assez important en France. Mm-hmm. Et puis on retrouvera le samedi 4 juin, et moi mes propres élèves de mes classes ont été galvanisés par le fait qu'il y ait non pas Roméo Elvis à 21h20, parce qu'ils ne les connaissent pas, moi mes élèves, mais c'est pas grave, mais par contre à 23h PLK, et alors là, vraiment...
Ça leur dit quelque chose.
Ça leur dit quelque chose.
D'accord.
Et ensuite...
C'est normal que ça ne me dise rien.
Voilà, on finira par de l'électro avec Feder, et c'est vraiment des très belles choses. Donc c'est un festival gratuit, j'ai oublié de le dire.
Oui, c'est important de le préciser, c'est pour ça qu'il y aura beaucoup de monde.
Voilà, et c'est très bien qu'il y ait des choses comme ça, et en plus, c'est un festival qui fait réfléchir sur ce qui sont les thématiques d'aujourd'hui, l'écologie, la solidarité, le partage, le handicap, le harcèlement, toutes ces choses qui tournent dans la société aujourd'hui.
D'accord.
Donc voilà. Et je précise, puisque sur le dossier de presse, je viens avec ma gourde. Et je précise, la gourde, c'est un objet qui contient de l'eau. D'accord.
Évidemment.
Le Réel Festival, qui est donc ce week-end, vendredi, samedi, dimanche. Il faut y aller.
Il faut y aller, absolument. Merci beaucoup. Gaëlle, quel est ton Gédéon ?
Alors, mon Gédéon de la semaine, c'est une belle histoire. Et bonne nouvelle, vous pouvez aussi la vivre. Dès 2017, le site touslesjourscurieux.fr proposait des récits, portraits et entretiens de photoreporteurs, photographes et artistes plasticiens, à l'affût d'une vision élargie de la photo. À l'écoute de leurs internautes et motivés par une audience croissante, Jean-Jacques Farré et Gilles Courtina ont relevé le défi de lancer une édition papier de leurs contenus digitaux. Like la revue était née. Défi redoublé par la gageure de lancer cette revue trimestrielle entre deux confinements, puisque le premier numéro date de l'été 2020. L'ancien directeur artistique de Libération, Télérama, Le Point, Amnesty International, Flammarion et j'en oublie, et Jean-Jacques Farré, rédacteur en chef jusqu'à community manager de Like la revue. Véritable couteau suisse, pour reprendre son expression, il souligne combien la revue papier répond au désir de conservation et de collection d'un objet. Un objet, j'insiste, de qualité, un petit écrin à lire comme un roman, qui, en plus des récits de photographes, fait la part belle aux images. Le numéro 8, sorti au printemps 2022, proposait un vaste dossier sur les photoreporteurs de guerre qui résonne avec la triste disparition du journaliste reporter d'images français Frédéric Leclerimov de BFM TV, tué le 30 mai dernier en Ukraine. Le prochain numéro met entre autres à l'honneur un panorama des festivals photographiques d'été et le photographe et résistant français Adolfo Kaminski, spécialisé dans la fabrication de faux papiers d'identité. Vous pouvez acheter ce numéro 9, été 2022, en ligne sur touslesjourscurieux.fr. aussi pour satisfaire votre curiosité sur le monde et prendre part à la belle initiative de Like la Revue, achetez toute la collection et abonnez-vous. Ultime rappel du site, touslesjourscurieux.fr.
Moi, je peux dire un mot parce que je découvre la revue et ce que tu as dit tout à l'heure sur le format, je trouve ce format vraiment très intéressant parce que voilà, c'est un petit format comme un petit livre. Il y a des photos magnifiques, effectivement, photos reporters de guerre.
Et on a envie de collectionner.
Voilà, on a envie de collectionner parce que souvent, les revues un peu, comment dire, pas chic, mais de qualité sont souvent très grandes. Très grand format, et en fait c'est compliqué en fait de les compulser ou en tout cas de les collectionner. Là c'est vraiment un format vraiment formidable. Donc voilà, photo reporter de guerre, 42 pages de récits du Vietnam à l'Ukraine.
Ouais, c'est vrai qu'on en parle beaucoup du photoreportage parce que je sais que tu aimes beaucoup ça, Gaëlle. Enfin, tu t'intéresses beaucoup à cette question-là. Et effectivement, c'est une très belle revue.
Plasticienne et tout, photographe confondu. Hein. C'est vraiment une vision ample de la photo.
Merci beaucoup, Gaëlle, pour cette découverte. Allez, moi, je termine sur une note beaucoup plus légère. C'est une belle histoire aussi que je vais vous raconter. C'est une bande dessinée qui s'appelle Itinéraire d'une garce. Le scénario est signé Céline Tran. Alors, peut-être que ça ne vous dit rien, mais peut-être que les garçons autour de cette table connaissent ce nom. C'est une actrice du cinéma X, bien connue, qui s'est effectivement muée en scénariste pour cette bande dessinée. C'est une bande dessinée très élégante qui est signée notamment de la dessinatrice Grazia Lapadula. C'est évidemment pour un public averti, je ne vais pas vous le cacher. C'est l'histoire d'une femme ordinaire, Élise, elle a 52 ans, elle est journaliste pour un magazine, non ce n'est pas moi, féminin à Paris. À l'aube de sa ménopause, elle mène une vie plutôt confortable et routinière avec son époux, non ce n'est toujours pas moi. Un matin, en tombant par erreur sur un message, elle découvre que ce mari aimant la trompe. Non, ce n'est toujours pas moi, je l'espère en tout cas. Bouleversée, Élise décide pourtant de ne rien laisser paraître et de mener son enquête. Elle doit découvrir qui est cette maîtresse. En parallèle, c'est une autre quête qui commence. À travers cette épreuve, c'est sa propre initiative qu'Élise va entreprendre. En passant de la colère à la révolte, elle devient une femme désireuse de redécouvrir son corps et sa sensualité. Sa métamorphose s'amorce petit à petit, jusqu'au jour où elle croise enfin sa rivale. Et si c'était mieux ainsi? Quant à elle, que veut-elle vraiment? Véritable invitation à se découvrir, avec une dose d'humour et de sensibilité, cette fiction pornographique, vous l'avez compris, s'avère un récit authentique qui nous amène à repenser le concept de couple et le plaisir au féminin. Ça s'appelle Itinéraire d'une garce. C'est aux éditions Glénat. La collection s'appelle Porn Pop. Voilà, je vous laisse avec ça. À la semaine prochaine.
J'ai comme Odéon est une émission proposée par Gaëlle Bossier-Lombard et enregistrée à la Comédie Odéon, à retrouver sur lyondemain.fr.